Donc, cet après-midi, nous allons parcourir ce psaume 78, que j'ai intitulé « psaume historique » entre guillemets, parce que c'est à la fois un psaume historique du point de vue biblique, et on constatera à la lecture de ce psaume que ce n'est pas l'histoire au sens moderne du terme. Disons que ce n'est pas l'histoire telle qu'on aimerait la pratiquer de nos jours, mais c'est l'histoire significative de ce qu'on pourrait appeler l'Antiquité. Avant de se lancer dans la lecture, si je vous demandais quels sont les éléments que vous mettriez dans votre histoire, admettons que vous deviez faire l'histoire, non pas personnelle, mais l'histoire de votre cher protestantisme, de votre christianisme ou de votre pays, quels sont les faits marquants que vous inscririez dans votre parcours collectif? Jean-Claude.
La rencontre avec la rencontre d'abord avec un pasteur.
D'accord.
Et ensuite la rencontre avec le Théodore.
D'accord. Donc là, c'est quand même assez personnel. Tout le monde n'a pas rencontré Théodore Monod, je veux dire. Mais très bien. Mais imaginons qu'on écrive une histoire pour quelques-uns et pas simplement à titre familial. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous semblent particulièrement structurants dans une histoire, allez, disons, nationale ? Donc, l'Édit de Nantes. Donc, le moment où les filles ont eu le droit d'accéder au texte. La traduction en langue vulgaire, donc l'accès, le premier accès à la lecture pour tout un chacun. Séparation de l'église, enfin, des églises et de l'État.
Pour nous, Wittenberg, les propositions de Luther.
Donc les 95 thèses de Luther le 31 octobre 1517 sur les portes de Wittenberg. Donc vous faites de l'histoire au sens de l'histoire. Le massacre des innocents protestants ? Ok. Vous voulez parler de la Saint-Barthélemy, c'est ça ? D'accord. Ok. Donc, des faits historiques qui ont été confirmés par des sources externes, etc. Donc, on va prendre la lecture de ce psaume 78. Oui, je pense qu'il reste un... Voilà. Tout au bout, c'est des feuilles à trois. Et vous allez voir que la lecture historique est déjà avec une perspective légèrement différente de ce que vous avez évoqué. Peut-être qu'on le lit intégralement, comme ça on l'a dans l'oreille et on a un peu la cohérence, et on se répartit la lecture, si plusieurs personnes peuvent se partager la lecture de ce psaume 78, dans la traduction que vous voulez. Là, c'est une Louis II que je vous ai mise, la traduction classique protestante. Mais vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Je ne vais pas faire la lecture, sinon je vais parler pendant une heure et demie. Oui. Allons-y, Nicole, merci.
J'ai dit le début ou pas ?
Oui.
Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à prêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs.
Bon, je vais laisser la place.
Oui, si quelqu'un peut prendre la suite.
Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas à Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'il avait désiré.
Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une faim humaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude, et ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte, et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il échangea leurs fleuves en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité.
Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les terres de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il y dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pain en héritage et fit habiter dans leur temple les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils s'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergers. Il le prit derrière une brebis qui allait pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes.
Bien. Donc vous voyez, c'est quand même une histoire très spécifique, que l'on connaît si on est habitué à la culture biblique, mais force est de constater que tous les événements qui sont cités dans ce psaume, s'ils correspondent à d'autres passages bibliques que nous allons repérer, ne sont pas cités dans des sources externes. C'est-à-dire qu'un historien aujourd'hui ne pourrait pas dire que c'est un récit historique, parce que on a aucune preuve matérielle que ces événements ont bien eu lieu tels qu'ils ont été relatés dans ce psaume notamment, mais aussi dans le livre de l'Exode ou le livre des Nombres. D'ailleurs, ce texte ne prétend pas avoir un caractère historique. C'est nous qui disons l'histoire sainte, par exemple. Mais c'est un concept qui a été accolé à ces textes a posteriori. Et c'est peut-être tout le danger, d'ailleurs, de notre rapport à ces textes, c'est quand on les sanctifie, lorsqu'on les sacralise, lorsqu'on en fait la norme à partir de laquelle nous devons nous penser. Donc, premier point, il faut prendre ces textes avec prudence parce que ce sont des mythes plutôt que des récits historiques. Et mythes, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est juste un statut particulier, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des événements historiques pour donner accès à ce qu'on pourrait appeler le sens de la vie de notre jour. Et comment le rédacteur du psaume 78 fait-il ? Eh bien, il fait à la fois une relecture de l'histoire, mais cette relecture de l'histoire, on peut peut-être l'envisager non pas comme voilà ce qui vient juste d'arriver, mais voilà ce qui nous arrive et qui trouve un écho dans ce que nos anciens nous ont raconté. Pour être plus précis, ce texte est écrit dans la langue hébraïque et c'est un hébreu, je dirais, assez contemporain. En tous les cas, ce n'est pas une langue hébraïque du Xe siècle. Xe siècle, c'est l'époque supposée être celle de David. Vous voyez, l'histoire s'arrête avec David, le roi David. David, c'est le Xe siècle. Ce n'est pas de l'hébreu du Xe siècle. On a des tessons de poterie sur lesquels on a de l'hébreu du 8e siècle. C'est un hébreu qui est encore plus archaïque que celui-ci. Celui-ci, c'est quelque chose qui correspond plutôt à l'époque 7e, 6e siècle, c'est-à-dire en fait la déportation à Babylone. Et donc l'auteur de ce psaume réfléchit à la catastrophe de la déportation et pour y réfléchir, il utilise les récits antiques, les mythes, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, l'installation en terre promise que vous avez certainement repéré. Il y a beaucoup de références à cette séquence-là. C'est ce que font les protestants lorsqu'ils parlent des guerres de religion, avec la révolte des camisards, etc. Personne, en dehors de quelques historiens, n'a une idée très claire de ce qui s'est passé. Mais chacun est capable de vous raconter l'histoire des camisards. C'est-à-dire, en fait, il est capable de raconter sa propre histoire. À travers un mythe où il y a de l'oppression, de la résistance, de la résurrection, de la libération et donc de l'espérance. Et c'est ce que fait ce théologien. Dans une situation catastrophique, il se demande s'il y a encore un avenir possible. Et cet avenir, il va dire qu'il est possible dans la mesure où il trouve un événement dans le passé qui était catastrophique, l'histoire semblait arrêtée, l'avenir bouché, et pourtant, il y a eu une sorte de résurgence. Et donc, il y a une forte insistance sur la question de la mémoire. L'idée est la suivante. Si ça a fonctionné par le passé, ça pourrait fonctionner dans le présent. Et il y a une forme de lucidité chez ce théologien, c'est de dire les problèmes ne sont pas arrivés tout seuls. C'est-à-dire que nous avons notre part de responsabilité. C'était vrai autrefois, ça l'est encore aujourd'hui. Techniquement, c'est ce qu'on appelle la couche deutéronomiste. Vous connaissez le livre du Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Ça correspond à des rédacteurs de type Jérémie, par exemple, qui, au moment de l'exil à Babylone, vont se demander « Mais qu'avons-nous fait pour en arriver là ?» Autrement dit, cette crise, d'où vient-elle ? Et ils vont repérer tous ces moments où le peuple a été infidèle à l'Alliance, c'est un thème qui apparaît assez souvent, et les infidélités à l'Alliance n'ont pas été sans conséquences. Alors on va voir comment c'est traité dans ce psaume, et on pourra en dire quelque chose par rapport à notre aujourd'hui. Et à partir de là, ce psaume a comme fonction une fonction double. La première, c'est de ne pas répéter les erreurs de l'histoire, donc c'est de pouvoir éviter la répétition des scénarios de vie problématiques, faire filtre. Et la deuxième, c'est de pouvoir retrouver des points d'appui qui ont déjà été repérés par le passé. Dans quelles circonstances ce psaume a-t-il été écrit ? On ne peut en parler que sous forme spéculative. Mais une hypothèse qui me semble vraisemblable, c'est que ce psaume est écrit pour pour une génération qui risque de ne plus être au bénéfice de la tradition orale. C'est-à-dire une génération qui risque d'être submergée par la culture babylonienne. Une génération qui n'a pas fait l'expérience de la réussite. Je reprends l'exemple de Boris Cyrulnik, que je vous avais évoqué une fois ou l'autre. Il raconte ce qui se passe à Bordeaux quand il a 6 ans. Donc il y a une rafle, tout le monde est raflé, et lui arrive à s'enfuir dans les toilettes, il monte, et donc il se cache en hauteur. Et donc il redescendra quand, je ne sais pas si c'était la Gestapo ou d'autres qui ont raflé tout ce monde, et il dit dans un de ses livres que c'est une expérience fondamentale pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il a été confronté à un problème, il lui suffisait de se dire « Il suffit de monter, je m'en sortirai ». Et donc, vous voyez, lui qui a développé le thème de la résilience, il disait « Cette expérience première est pour moi un modèle de réussite auquel je peux me référer quand j'ai une difficulté à affronter ». Et donc, ça permet de se dire que ce n'est pas fichu. Mais que se passe-t-il pour quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience fondamental. Pour quelqu'un qui a une enfance tellement malheureuse ou tellement transparente, sans point d'appui, qu'il se dit que de toute façon c'est fichu. Eh bien, les textes bibliques, et notamment ce psaume, servent de mémoire auxiliaire. Ce qui a été vrai pour d'autres pourra l'être pour toi. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'avoir fait toi-même l'expérience en ton fort intérieur dans ta jeunesse. Tu peux te raccrocher à l'expérience que d'autres en fait ont consignée dans ce texte qui t'est transmis, qui t'est offert aujourd'hui. Un philosophe comme Paul Ricoeur va insister sur le caractère décisif de la narration dans les familles, en disant que le premier travail éducatif, c'est de raconter l'histoire de la famille, et de raconter toute l'histoire, pas simplement les hauts faits, les faits glorieux, ceux dont on est fier, mais toute l'histoire, parce que c'est aussi ce qu'on a fait des malheurs qui permet de donner de la force, de l'énergie et de l'espérance à la génération suivante. Autrement dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, tu as eu un oncle collabo, eh bien ça n'a pas empêché qu'une génération vienne et puisse transfigurer cette histoire-là. Autrement dit, une histoire mal partie peut être commuée de façon intéressante et positive. Et si tu as eu des ancêtres résistants, eh bien, comme disait Ézéchiel, c'est pas parce qu'eux ont réussi que toi tu n'as plus rien à faire. Bon. Par rapport à ces premiers mots d'introduction, vous avez des questions, des réactions avant qu'on entre dans le texte ? Vous pouvez ne pas être d'accord. Donc, on y va. Donc, cantique d'Asaph, qui commence par « Mon peuple, écoute mes instructions ». Alors, dans le texte hébreu, c'est « Écoute ma Torah ». Ce qui est, vous voyez, plus significatif. Torah, ça vient du verbe yara, qui veut dire instruire, d'où la traduction instruction. Mais autant retrouver le terme qui est derrière, écoute ma Torah. Donc, c'est aussi une façon de dire que la Torah qui donne la loi n'est pas à comprendre comme une liste de prescriptions auxquelles il faudrait obéir aveuglément. La Torah, c'est d'abord narratif. C'est d'abord une histoire dans laquelle on peut s'inscrire et qui est une sorte de support pour notre vie. La Torah, dans la perspective de l'Ancien Testament, est comprise comme une aide que Dieu nous donne, voyez, comme un chemin de salut, et pas comme une contrainte qui permettrait d'asservir. Au contraire, si on prend le Décalogue, la première parole des 10, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. » Donc c'est une histoire de libération. Et la Torah est faite pour libérer, pas pour emprisonner, pas pour cadenasser. Donc, écoute, tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Donc vous voyez, on parle, donc c'est Dieu qui parle, hein, et on parle avec des anthropomorphismes, c'est-à-dire qu'on donne à Dieu une bouche. Ce qu'évidemment, il n'a pas. Mais c'est une façon de dire que ça cause, pour le dire de façon un peu psychanalytique. C'est-à-dire que le face-à-face avec Dieu donne sens, fait sens. Quand Moïse est face à son buisson ardent, eh bien, sa vie prend une nouvelle dimension, prend une nouvelle perspective. Donc, se tenir face à Dieu, se mettre à l'écoute, c'est une métaphore, c'est une façon de donner à sa vie une autre amplitude, peut-être un autre horizon. Donc j'ouvre la bouche par des sentences, je publie, alors le terme qui est traduit par sagesse, c'est rida, et ce sont plutôt des énigmes. Ce sont des énigmes qui, dans la langue grecque du Nouveau Testament, vont donner les paraboles. C'est Salomon, le roi des paraboles, le roi des énigmes, avec la reine de Saba. On avait eu l'occasion d'en parler un peu une fois. Quel est l'intérêt des énigmes ou des paraboles ? C'est d'éviter une compréhension littérale des phrases. Régulièrement, vous êtes quelques-unes, en l'occurrence, à me demander, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas plus simple, la Bible? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours par parabole, par énigme? Pourquoi est-ce qu'il y a des circonvolutions? Est-ce qu'on ne peut pas dire les choses de façon plus cash? Eh bien, le problème, c'est que quand on dit les choses de façon plus cash, plus littérale, ça ne laisse plus de place à l'interprétation, et en fait, ça fige la vérité. Et donc, ça suppose que la parole n'est plus vivante. Si la parole est vivante, ça veut dire qu'elle change, qu'elle évolue, qu'elle se métamorphose. C'est-à-dire qu'elle est en phase avec la vie qui elle-même se métamorphose. On peut toujours regretter de ne plus avoir la vie de nos arrière-grands-parents, mais c'est peut-être à la condition qu'on ne soit pas comme nos arrière-grands-parents que nous sommes vivants. Et c'est vrai aussi pour la parole. La parole est donc elle-même en évolution, elle se métamorphose, et donc le fait qu'il y ait des énigmes, des mystères, des intrigues, c'est ce qui nous donne de la place, hein, ça donne du jeu, pour pouvoir retrouver l'esprit qui animait ces personnages, qui ont mis par écrit de la sagesse, qui ne peut pas être prise telle qu'elle aujourd'hui. Prenons un exemple. Le vocabulaire change. Je vous l'ai déjà dit, mais en 1980, quand deux personnes cohabitent, ça veut dire qu'elles sont sous le même toit et qu'elles ne sont pas mariées. En 1986, deux personnes qui cohabitent, c'est un président de gauche avec un premier ministre de droite. Pas seulement, mais la cohabitation maintenant, c'est plus une histoire de conjugalité. Enfin, ça se conjugue, mais dans des oppositions politiques. Et donc, vous voyez, si on reste sur un énoncé pris au sens littéral du terme, rien qu'en 5 ans, en 10 ans, ça peut changer du tout au tout. Ça, c'est un texte qui est au mieux du 6e siècle, avant notre ère. Donc, vous imaginez l'écart que ça fait. Donc, si les choses sont écrites pour ne pas être interprété, alors forcément, il y a des catastrophes d'interprétation. Enfin, des catastrophes herméneutiques, ça colle plus, quoi. De même qu'il faut toujours replacer le texte dans son contexte. Quand vous prenez un journal et que c'est écrit « Le PSG a massacré je ne sais pas quelle équipe de Ligue 1 », c'est pas pareil si c'est dans l'équipe ou si c'est dans le monde. Mais on se doute, si c'est dans l'équipe, que les 11 joueurs adverses sont repartis sur leurs jambes. Quand le monde parle de massacre, en général, les gens ne se relèvent pas. Oui. Pardon ? Voilà. Bien. Donc, je publie la sagesse des temps anciens. Donc, je publie, en quelque sorte, ce capital de sens des temps anciens pour que vous en fassiez quelque chose. Pour que vous le coltiniez, pour que vous l'interprétiez, pour que vous le mâchouilliez, pour que vous le digériez, pour que vous le prêchiez vous-même. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, ça va être cité dans Matthieu au chapitre 13, verset 35. Allez, je vous le lis, comme ça fait une petite pause néo-testamentaire. C'est pour vous montrer aussi comment les évangélistes ont puisé Matthieu chapitre 13, verset 35. Ça vous montre comment le Nouveau Testament a puisé dans l'Ancien pour donner sens à la vie de Jésus. C'est-à-dire que la vie de Jésus, elle est du même ordre que ces événements-là. Voilà quelque chose qui nous bouleverse, voilà quelque chose qui nous intrigue. Eh bien, on va donner du sens par rapport à des événements d'autrefois qui nous permettent de comprendre ce que Jésus manifeste. Matthieu, chapitre 13, verset 35, c'est après la parabole du grain de moutarde et du levain. Jésus dit tout cela aux foules en parabole. Il ne parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création. Donc, ça, c'est une citation du psaume 78 pour montrer que Jésus lui-même s'inscrit dans une démarche, donc herméneutique, c'est le mot technique pour parler de l'interprétation, ne prenons pas les choses au pied de la lettre. Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir, il est venu pour redonner du sens. Exemple typique, Paul dit à la communauté de Corinthe que les femmes doivent être couvertes dans les assemblées, qu'elles ne doivent pas prendre la parole. Bon, si on ne fait pas de lecture historico-critique, si on ne voit pas que c'est l'époque où à Corinthe, les femmes étaient instrumentalisées, elles étaient enivrées et qu'elles étaient finalement contraintes de jouer le rôle de pitié sous l'effet de l'alcool, avec des pratiques qui consistaient à leur raser le crâne, etc. Enfin, vous voyez, elles étaient vraiment les objets de foire. Eh bien, du coup, la prescription de Paul perd tout son sens. Et ça devient une source de contrainte qui a eu lieu jusque dans les années 60 en France, hein, où il fallait venir à la messe avec son fichu. Évidemment, jusque dans les années 50, pas de femme pasteur. Et ça a été tout un drame dans certaines églises quand des femmes sont devenues pasteurs. Donc, voilà, il s'agit vraiment de remettre les textes dans leur contexte. Vous m'interrompez d'où vous voulez, hein ? Ok. Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Donc, vous voyez, nous le dirons à leurs enfants, c'est-à-dire qu'il y a une génération qui saute. Autrement dit, c'est la génération des grands-parents qui sentent que leurs propres enfants sont un peu en train de louper le coche avec les petits-enfants. Et ils se disent, comme ils ne les emmènent pas à l'église, eh bien moi je vais leur faire la catéchèse. Prenons les choses en main. Bien, vous vous reconnaissez toutes et tous, tout va bien, parfait. Donc évidemment, il y a une responsabilité individuelle, c'est simplement la question de la transmission. C'est éviter la rupture. Et vous voyez que l'histoire est orientée, qu'elle est ciblée. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire. Il s'agit de faire un tri et d'offrir ce qui va être nécessaire pour que les petits-enfants aient les points d'appui nécessaires pour avancer plus tranquillement en sécurité dans la vie. Autrement dit, pour que ça ne s'écroule pas. L'idée, c'est d'offrir des fondations. Et, vous voyez, on pourrait se dire, tout simplement en termes de pédagogie, prenons le début du verset 4, « Nous ne le cacherons point ». Ça suffit, ne pas faire de rétention d'informations. Qu'il y ait une sorte de fluidité dans le récit familial. Donc, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi, c'est une Torah, à nouveau. Il a mis une Torah en Israël. Jacob, Israël, c'est le même personnage. C'est Jacob qui prend le nom d'Israël au moment où il retrouve son frère Ésaü. Hein, il y a la réconciliation, et Jacob devient Israël. Israël, ça veut dire Dieu combat. Tu as combattu avec Dieu et tu l'as emporté. Donc il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Le texte hébreu dit « leurs fils ». C'est l'usage de nos jours d'être un peu plus... ouais, c'est un nom, ça, quand on inclusif. Bon, le texte hébreu parle de fils. Bon, de même qu'il parle des pères et pas des parents. C'est pas significatif, si ce n'est une trace de comment les choses se disaient à l'époque. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, donc vous voyez, hein, il s'agit de il y a un saut de génération, c'est pas nos propres enfants, c'est les générations, la génération à venir, et que devenus grands, eux-mêmes soient en mesure de transmettre cela à leurs enfants. Donc on est vraiment dans une histoire de transmission, de liens, et cela s'explique par le fait que la population est menacée d'extinction, en fait. Prenons le cas des réfugiés, quel que soit le motif de leur arrivée en France. La plus grande menace pour eux et pour nous, c'est qu'il y ait une sorte d'oubli de qui ils sont, d'où ils viennent, de ce qu'ils ont vécu. Et donc le premier travail pour un véritable accueil, c'est de faire vivre leur mémoire. Je ne vais pas donner la parole à Françoise, sinon on en a pour une heure, mais à la clairière, il y a eu un moment où on s'est rendu compte que les parents ne parlaient plus de leur culture aux enfants. Ils en avaient honte, en fait. Ni sur les plans culinaires, ni sur le plan du récit familial. Et ça, c'est la catastrophe absolue. C'est la catastrophe parce que ça veut dire qu'on a une génération qui arrive, qui n'a aucune histoire à laquelle adhérer, et qui, du coup, va prendre la première histoire qui arrive. Alors, si vous voulez préparer un superbe terreau pour ce qu'on appelle aujourd'hui de la radicalisation, vous faites en sorte que le terrain soit vierge de toute histoire. Et tout peut prendre, tout peut pousser. Voilà. Il y a un récit dans le Nouveau Testament, c'est « le bon grain est livré ». Livré, en grec, c'est « dizaion », c'est la zizanie. Donc, s'il n'y a pas de place, enfin, s'il y a de la place pour mettre un autre récit, le récit va prendre. Si vous n'avez pas d'idéaux, dès qu'on vous colle quelque idéal que ce soit, vous le prenez, c'est bon à prendre. Ah, peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord. Il y a la contestation. Ah, très bien. Donc, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Qu'il y ait quelque chose à raconter. Même si ce n'est pas l'histoire, que ce soit au moins un récit auquel se raccrocher. Un récit qui fasse sens, un récit qui favorise la vie, en fait. Et on avait lu le psaume 104. Le psaume 104, c'est une sorte d'exaltation de la nature. Le psalmiste s'arrête, il raconte ce qu'il a autour de lui. Et en fait, on avait vu que ce n'était pas tout à fait innocent, cette façon de raconter. Il utilisait le récit de Genèse 1, donc le mythe de création, pour parler de la nature. Autrement dit, il avait un prisme à travers lequel il regardait la nature. Si nous n'avons pas de prisme à travers lequel observer le monde, eh bien, en fait, nous sommes submergés par les informations qui nous arrivent. Vous voyez, entre les réseaux sociaux, les informations continues, et les rumeurs, etc., si nous n'avons pas quelques convictions, si nous n'avons pas quelques perspectives, eh bien, on prend tout argent comptant. Et on participe aux rumeurs. Donc, le verset 7, « Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. » J'espère que vous appréciez les conjugaisons. Voilà. C'est subjonctif. Alors, la confiance ici, ce n'est pas la foi, c'est la sécurité. C'est le terme « kessel ». Plus tard, on verra la foi au sens de Amen et Mouna. Ici, c'est vraiment la question de la sécurité. Donc, ils trouvent leur sécurité en Dieu. On reparlera un petit peu de Dieu dans la suite. Et qu'ils observent ses commandements, c'est les mitzvot. On est au singulier mitzvah. Mitzvot, vous l'entendez si vous fréquentez la synagogue, parce qu'il y a dans le judaïsme 613 commandements, 613 mitzvot, certains positifs, certains négatifs, qui sont tirés de la Torah et qui constituent la règle à laquelle s'astreignent notamment les courants orthodoxes du consistoire, les rabbins notamment. Et donc, les mitzvot, c'est un terme que vous pouvez apprendre parce que c'est très utilisé. Tsawa, ça veut dire ordonner. Mitzvot, donc c'est les ordres ou les commandements. Commandements, c'est peut-être plus joli, c'est la parole paternelle. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, donc là, ils parlent justement de leurs enfants, donc ils parlent de vos enfants si vous êtes grands-parents, enfin, vous voyez, ceux avec lesquels on n'a pas bien réussi, voilà. Bon. Une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, ça veut dire qui était sans fondement, pas établi. C'était pas Kuhn. Voilà. Autrement dit, le cœur était comme un fétu de paille. Vous voyez, il allait dans le sens du vent. Il n'était pas enraciné, mais enraciné, c'est un peu statique. Il faudrait plutôt se dire qu'il y avait de la gravité. Vous voyez, un homme sans gravité, c'est quelqu'un qui prend la dernière opinion, ou l'opinion majoritaire, peu importe qu'elle soit juste ou pas. Pardon ?
Sans consistance.
Sans consistance, oui. L'homme sans gravité. Et dont l'esprit n'était pas fidèle, alors cette fois, fidèle au sens de la foi. Amen. Elle n'était pas amen à Dieu. Elle était pas, il n'y avait pas d'émouna. Ça veut dire qu'elle n'adhérait pas. La foi, c'est le fait d'adhérer. Schleiermacher, le théologien protestant du XIXe siècle, dira que la foi, c'est le fait d'être... c'est ce sentiment de totale dépendance à l'égard de Dieu. Paul Tillich dira que c'est le fait d'être saisi de manière inconditionnelle. Donc, voilà, il y a des épousailles. Et du coup, Dieu peut désigner... ce à quoi on adhère de façon ultime. Ça peut être un, avec la théologie du process, on pourrait dire, ce sont les processus d'humanisation. On adhère au processus d'humanisation. Donc on est humaniste, chrétien humaniste, etc. D'autres vont dire, il faut adhérer à des vérités, à des dogmes, et donc la foi, ce sera la foi dans laquelle il faut croire. Voilà, il faut adhérer à des vérités. Les fils d'Israël, d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, firent volte-face, tournèrent le dos le jour du combat. Donc, on a... C'est qu'en fait, il y a cette idée selon laquelle le schisme qui va avoir lieu entre le nord et le sud, entre ce qu'on appelle Israël qui est le nord et Juda qui est le sud, tient au fait que le royaume du nord a été le premier à fauter et à se laisser avoir par les Assyriens. Donc ça, c'est 722. Mais on a finalement l'idée qu'il y a une branche qui n'est pas fiable. Une branche qui n'assume pas ses responsabilités. Contrairement à Juda, qui va être un peu jusqu'au boutiste, qui va être droit, fidèle, le côté un peu pur et accompli, on va le voir tout à la fin du psaume. Donc, il y a le refus du combat, il y a le fait qu'on se couche devant l'ennemi, en fait. Hein. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, ils refusèrent de marcher toujours selon la Torah. Ils mirent en oubli ses œuvres, et là c'est le verbe vraiment oublié, shakar, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Et donc, on vient de finir l'introduction. Là. Les 11 premiers versets, c'est l'introduction. Ça donne un peu le cadre. D'un côté, l'exigence de la transmission, et de l'autre côté, ce qui arrive quand on oublie. C'est-à-dire qu'à l'opposé de faire mémoire, de transmettre, il y a l'oubli. Et ce n'est pas ne pas se souvenir, c'est oublier, c'est effacer. C'est un peu comme en Égypte, quand une nouvelle génération grattait tous les cartouches pour effacer le nom du pharaon précédent, comme si cela n'avait pas eu lieu. Je vous avais lu la fois dernière... cet article que je trouve stupéfiant de l'édit de Nantes, Henri IV, qui dit « Faisons comme si tout cela n'avait pas eu lieu. » Eh bien si, justement, il faut dire que ça a eu lieu. Parce que sinon, on est handicapé de la mémoire et on ne comprend pas pourquoi on est dans cet état-là. C'est-à-dire que s'il y a du clivage à un moment donné au sein d'une société, il faut au contraire dire quelles en sont les raisons. Pour éviter de les reproduire, ne serait-ce que cela, ou pour éviter de penser que c'est normal qu'il y ait des clivages. Non, il y a clivage parce qu'il y a eu affrontement entre le parti catholique et le parti protestant. Et c'est la condition d'en être bien conscient, qu'on comprend l'état de la société française, du Royaume de France pour ce qu'il en est, donc en 1598. Si on fait comme si de rien n'était, en fait, on crée un secret de famille qui reconfigure la famille sans qu'on sache pourquoi elle est dans cette configuration-là. Et alors là, après, ça coûte cher en psychanalyse. Hein. À partir du verset 12, on commence la deuxième partie qui va consister à parler du premier exode, de l'exode et du Sinaï. Donc c'est les versets 12 à 53, hein, c'est une partie à part entière. Donc, on a l'action par la fin, c'est-à-dire qu'ils font la mer, leur ouvrent un passage, et fit dresser des eaux comme une muraille. Donc là, on voit le passage de la mer des joncs. On voit tout de suite Charlton Heston, tout ça. Alors, je vous rends attentif à un petit élément exégétique. C'est pas complètement décisif, mais... C'est bien que vous le sachiez, vous le méritez.
Merci de votre confiance.
Il ne faut rien vous cacher. On l'a écrit, on l'a vu un peu plus haut. Je vais essayer de m'y astreindre. Bien. Le dernier mot du verset 13, c'est muraille. En fait, c'est, en hébreu, c'est ned. Ça veut dire la digue. La digue. C'est un mot que l'on retrouve en Josué 3, versets 13 et 16. Josué 3, versets 13 et 16, c'est l'entrée en terre promise, c'est le moment où on passe le Jourdain. Et pour passer le Jourdain, on aurait très bien pu le passer à pied sec, puisque deux chapitres plus tôt, il y a des espions qui sont envoyés à Jéricho, et ils passent, c'est un endroit où ils peuvent passer à pied sec, à gué. Mais pour entrer en terre promise, de façon très processionnelle, que se passe-t-il? On prend l'Arche d'Alliance. Il y a 12 prêtres qui portent l'Arche d'Alliance. Ils arrivent dans le lit du Jourdain, et là, le Jourdain s'arrête. Et il y a une digue qui se crée, parce que les eaux s'amoncellent. Donc, vous voyez, il y a une digue. Ils ramassent des pierres, enfin, il y a tout un truc. Bon. Une digue, ça marche quand il y a un fleuve qui s'arrête. Mais quand il y a une mer qui s'ouvre, bah, ça ne peut pas être une digue, en fait. Voilà. Et c'est là qu'on voit... C'est un élément exégétique assez bon, je pense. Qu'en fait, le récit du passage de la mer des joncs s'est inspiré du récit de la traversée du Jourdain et pas l'inverse. Autrement dit, dans la narration, on commence évidemment par l'Exode. Donc on sort d'Égypte, on traverse la mer des joncs, on passe 40 ou 42 ans selon dans le désert, il y a une génération qui meurt, et hop, Moïse meurt, il est enterré par Dieu, on traverse le Jourdain. Mais, bonjour, ce qui semble être la chronologie de rédaction, c'est qu'on a d'abord pensé le récit d'installation en terre promise, et ensuite, on a utilisé ce récit pour construire la sortie d'Égypte. Autrement dit, le texte de l'entrée en terre promise serait plus ancien que le texte de sortie d'Égypte, dans l'écriture, dans la mise en récit. Si cela est possible, c'est que de toute façon, la sortie d'Égypte telle qu'elle n'a pas eu lieu. Bon. On est dans l'écriture d'un mythe qui donne sens à toutes les sorties possibles, et notamment la sortie de Babylone. C'est-à-dire qu'il est possible de sortir de Babylone, à l'époque où on écrit en fait ces textes-là. Il est possible de ne pas devenir les esclaves des Babyloniens. Mais bien sûr qu'on ne va pas parler des Babyloniens puisqu'on est à Babylone, donc on parle des Égyptiens. On va faire de l'Égypte. Bon, c'est très simple. Si vous êtes sous le joug de l'Empire romain, imaginons que vous soyez en 90 de notre ère. Il y a l'Empire romain, poum, bien, vous avez eu le droit aux persécutions de Néron, etc. Vous faites de la résistance dans les catacombes. Et vous voulez parler de la future défaite de l'oppresseur romain. Bah, vous avez parlé des Babyloniens, la Grande Babylone. C'est ce que fait le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais directement de la personne concernée quand on est en situation de résistance. Parce que si on se fait attraper, c'est pas bon, quoi. Donc, il y a une sorte de cryptographie. Voilà. Et... peut-être que vous avez... connu quelques prédicateurs du genre Georges Casalis, qui faisait des prédications sur les Égyptiens, sur l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte, etc. Il parlait que des Égyptiens, et tout le monde savait qu'il parlait des Algériens, en fait. On était dans les années 60. Parce que il s'agit de parler par énigme et par parabole. Pas de communication frontale, parce que sinon tout le monde se bloque, tout le monde se ferme. Donc, on passe par des périphrases, par des images, on décale le propos, et on fait comme Nathan avec David. David a donc commis un adultère avec Bethsabée, il a fait tuer son mari pour couvrir l'affaire, et Nathan doit lui remonter les bretelles. Il ne lui dit pas « tu as péché ». Il lui dit « il y a dans notre royaume un grand propriétaire qui est allé voler la petite brebis d'un pauvre petit propriétaire ». Et David dit « mais alors ça c'est scandaleux ». On a vu ça avec le psaume 51. « Apporte-le-moi, je lui fais sa fête ». Et Nathan lui dit « mais cet homme, c'est toi ». Oui. Et donc là, ça marche. C'est ce qu'on appelle la communication performative. C'est le discours performatif, c'est la pragmatique du langage, du discours, etc. Et donc là, c'est à peu près le même procédé. Donc, ils font la mer, qui est aussi un motif mythologique. Fendre, dans les mythes créateurs, c'est fendre le monstre primordial. On l'ouvre en deux, et de là apparaît la terre vivable, apparaît la vie, etc. Et on a pas mal de récits dans le Proche-Orient ancien. Je pense que dans la mythologie grecque, on doit avoir quelques textes comme ça aussi, où on fend et on crée le cosmos. Donc, il leur ouvre un passage. Il les conduisit le jour par la nuée, et la nuit par un feu éclatant. Donc là, vous retrouvez le motif de l'Exode. Hein. Exode 13, Exode 14, on est dans ces zones-là. Après, ils font les rochers dans le désert. Ils donnent à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Bon, je vous prends le livre des Nombres, parce qu'on ne va pas souvent dans le livre des Nombres. Chapitre 20, versets 8 à 11. C'est le quatrième livre de la Bible. Nombre, verset 20, chapitre 20, pardon, versets 8 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, la communauté but, et le bétail aussi. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la citation, hein. C'est vraiment de l'intertextualité. Sur le plan du discours, c'est juste un énoncé paradoxal. Comment voulez-vous que de l'eau, qu'un rocher produise de l'eau ? C'est antithétique, finalement. Et donc, c'est une façon de dire que si on peut faire sortir de l'eau du rocher, alors a fortiori, on recevra de bonnes choses de la part de l'Éternel. On retrouve ça dans le Nouveau Testament. Vous qui êtes foncièrement mauvais, c'est le cas. Quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas des cailloux. Bon, bah, a fortiori, Dieu qui est dans les cieux donnera ce qui vous est un peu nécessaire. Et si vous demandez un poisson, vous ne donnez pas un serpent. Bon. Et bah, c'est tout pareil. Oui, ce qu'il estime, oui. Alors, le rocher peut-il produire un miracle, de l'eau avec un miracle de Dieu ? Alors, oui et non. Je vous réponds assez personnellement sur le plan théologique. Oui, si on se souvient que miracle, ça veut dire signe. Et donc, le signe, c'est par exemple ce que les scouts apprennent lorsqu'ils font leur classe, c'est que pour savoir quelle est la nature d'un rocher, on cogne dessus avec un bâton. Et s'il y a de l'écho, on peut se dire que le rocher est creux et que derrière, il y a peut-être une cavité dans laquelle il y a de l'eau. Et donc, ça fait signe. En revanche, si c'est miracle au sens où on peut transformer des molécules de pierre en molécules d'eau, je ne crois pas. C'est un énoncé assez théologique, je ne crois pas. Mais c'est qu'en fait, avec Dieu, tout est possible, mais Dieu n'est pas ce qui permet de contrevenir aux lois de la physique, par exemple. Dieu est capable d'accomplir les lois de la physique, c'est-à-dire de les utiliser comme nous ne saurions les utiliser seuls. Et quand je dis cela, j'ai un peu l'impression de faire de Dieu un être quelque part. Dieu, c'est ce qui nous permet d'aller au bout de la connaissance scientifique, d'aller jusqu'aux confins de la connaissance scientifique et d'en faire le plus grand usage possible. Mais en tous les cas, il n'y a pas dans l'esprit des rédacteurs bibliques l'idée selon laquelle Dieu pourrait contrecarrer les lois de la physique, sauf si on prend les textes au pied de la lettre, ce qui après tout est possible. Mais vous savez, si on dit que Jésus marche sur l'eau, par exemple, dans ce cas, on peut effectivement se demander pourquoi est-ce que ça ne se reproduit pas, si c'est utile, et si c'est possible et que c'est utile, pourquoi ça ne recommence pas? Mais en fait, parce que ce texte ne dit pas que Jésus marche sur de l'eau au sens de H2O, mais il marche, il ne s'enfonce pas dans ce qui, à l'époque, est le symbole de la mort, puisque ce n'est pas un peuple de marins. Et donc, Jésus arrive à rester à la surface des ennuis. Il peut, contrairement à Pierre, ne pas s'enfoncer dans les peurs, dans les menaces. Donc, ce sont des textes qui, sur le plan symbolique, nous aident à pouvoir retrouver un peu le goût de la vie dans le quotidien, mais qui ne disent pas qu'il est possible d'échapper aux lois de la gravitation pour ce qui est des grandes échelles ou aux lois de la physique quantique pour ce qui est du microscopique. Et vous voyez, par exemple, sur la question des miracles et des guérisons de Jésus. Jésus n'a jamais fait repousser un bras ou une jambe. Vous voyez, les os n'ont pas repoussé. Et ça pourrait être utile. Ou faire repousser les cheveux. Là, ça j'aimerais bien, moi, mais non. Donc, il s'agit d'accomplir le cadre dans lequel nous évoluons, mais pas d'en proposer un alternatif, pour ce que j'en comprends. Mais je veux l'imposer à personne. Oui.
La question que je me pose, est-ce qu'il y a en hébreu
plusieurs termes, plus spécialisés les uns que les autres, pour
signifier Roche? J'essaie de voir quand même plutôt la référence Dieu et mon rocher dans le.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Est-ce qu'il y a plusieurs. Alors, disons qu'on obtient de ce qui est la sécurité de l'être humain, la sécurité elle-même, le concept de sécurité fait que, bon, voilà, tu es notre rocher, tu nous donnes de l'eau, même dans le désert.
Oui, du coup, c'est une métaphore opérationnelle.
Une approche scientifique, ou du moins avec ce mot scientifique.
Non, mais ça vaut toujours le coup de...
Les enfants, oui.
Pour répondre à la première partie de votre question, c'est y a-t-il plusieurs façons de nommer les rochers? Donc il y a cette façon-là, et puis il y a aussi les pierres. Les pierres, c'est-à-dire Eben, Banim, c'est les pierres que l'on prend dans le Jourdain, c'est les pierres sur lesquelles on écrit l'Alliance, donc ce sont des stèles, il faut imaginer les menhirs, par exemple. Là, c'est le rocher au sens de la roche, c'est le côté brut, c'est le côté liaison au sol, c'est effectivement le point d'ancrage, et puis aussi le lieu de la ressource, parce que le rocher peut donner de l'ombre, peut être un refuge pour les abeilles, peut être un coin de verdure par conséquent puisqu'il y a de l'ombre, etc. Et donc peut être aussi avec une anfractuosité. Il y a Moïse qui se cache dans l'anfractuosité du rocher et qui voit les arrières de Dieu. Donc la roche est aussi le lieu où on se préserve, comme Élie qui est à l'entrée de la grotte et qui va entendre ce murmure de fin silence, cette voix de fin silence, et Dieu va lui donner une vocation particulière. Ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Donc là, on a la rébellion qu'on trouve en Exode 15, Exode 16. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Alors là, l'actualité nous ramène à la question de la tentation, avec la traduction du Notre Père, etc. Tenter, c'est au sens de mettre à l'épreuve, de tester. Et alors c'est amusant parce que si on prend un peu de distance par rapport à ce texte, c'est-à-dire que si on accepte que ce n'est pas un texte qui fait une relation précise des événements tels qu'ils se sont passés, mais un texte qui nous aide à comprendre la dynamique à l'œuvre pour notre vie, en fait, c'est un texte qui raconte ce qui se passe avec les enfants. C'est-à-dire que le peuple hébreu a toutes les caractéristiques de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a une période où vous lui dites ceci et il repose la question. Vous lui dites ceci et il repose la question à quelqu'un d'autre. Et puis il vous teste. Et il a raison. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'il vous demande, je ne sais pas, pourquoi les nuages sont blancs, admettons. Vous lui répondez, vous faites une belle explication. Et puis sa mère passe et il lui pose exactement la même question. Ça, pour l'orgueil, c'est pas mal. Mais en fait, il fait son travail scientifique. C'est-à-dire que le travail scientifique consiste à ne pas se fier à une source unique, mais à comparer plusieurs sources pour accéder au plus près de la vérité. Et donc, à la fois, c'est pénible pour les parents, mais c'est magnifique. Parce qu'ils sont en train d'élaborer, le terme technique, c'est épistémologie, ils sont en train d'élaborer leur discipline de connaissance. Comment fait-on pour savoir que quelque chose est juste? Eh bien, il faut mettre en place des méthodes, et ça, c'est une méthode. La méthode, il consiste à poser plusieurs fois la même question. C'est ce que font les sociologues. Ils posent toujours la même question jusqu'à épuiser le sujet, c'est-à-dire jusqu'à avoir toujours les mêmes réponses. Tant qu'ils ont de nouvelles réponses, ils continuent leur enquête. C'est scientifique. Donc, ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut. Non et non, hein, c'est l'âge du non, c'est 3 ans, quoi. Voilà, ils ont 3 ans d'âge mental. Mais il ne faut pas en vouloir aux Hébreux, parce qu'en fait, les Hébreux, c'est nous à l'âge de 3 ans. On pourrait dire, après, vous voyez, ça c'est à l'échelle micro, à l'échelle macro. Les religions aussi ont leur temps de maturation. Il ne faut pas oublier que le christianisme, au 14e siècle, au 13e, 12e, n'était pas ce qu'il y avait de plus glorieux dans tous ses aspects. Il y a une partie intellectuelle qui est magnifique, il y a une élaboration intellectuelle qui est splendide, mais il y a une gestion du pouvoir qui est catastrophique. Il y a un effort de domination qui est épouvantable. Il y a un refus de la pluralité qui est regrettable. Et donc, le christianisme connaît sa propre évolution comme tout corps vivant connaît sa propre évolution. Et c'est pas fini, hein. On peut faire mieux encore. Donc, ils testèrent Dieu dans leur cœur, demandant de la nourriture selon leurs désirs. Mais c'est un peu ce que font aussi les gens qui sont au pied de la croix. Ils testent Jésus. « Ah, si tu es fils de Dieu, tu peux t'en sortir. Allez, vas-y, montre-nous que tu es le fils de Dieu. Allez, allez. Si vraiment tu es mon papa tout-puissant, tu viens bien me réussir à ceci, cela. » Bon. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Est-ce qu'il va y arriver? Ah, s'il n'y arrive pas, peut-être que ça ne sera plus notre Dieu. Hein. C'est du chantage. Voilà. Si vraiment tu es le plus fort des papas, bah, tu vas m'offrir mon iPhone 6. Quoi? Tu ne me donnes pas ton iPhone 6? Bah, tu n'es pas le meilleur des papas, alors. 7? Finaise, mais je suis perdu. Heureusement que vous êtes là. 7 hein.
Ça ne marche pas. Il ne marche pas, le 7.
Finaise. Ça ne marche pas. Bon, c'est bon, là, ils ont flingué le père tout puissant, là. Donc, pourrait-il dresser une table dans le désert? Donc là, c'est le livre des Nombres, au chapitre 11 essentiellement, et puis chapitre 33 aussi, versets 16-17. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain? Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est pour cela qu'il faut savoir mettre des limites. Sinon, après, on se fait ruiner. Et d'ailleurs, ça va être comme ça. Ils vont se faire ruiner. Et après le pain, il y a la viande. Voilà. Après, il y a la salade, les oignons, et on a un double whopper. Mais oui. et le dessert, ouais. Mais après, il y a le beurre, l'argent du beurre, la fille du crémier, enfin, vous voyez. C'est tout le problème du rapport à la limite. Et en fait, il y a l'apprentissage de la limite qui va se faire dans le désert. Mais c'est une expérience qui ne peut se faire, je dirais, que de façon subjective. C'est-à-dire que ça ne peut pas être théorisé. Et là, c'est la crise de l'adolescence. C'est-à-dire que la crise de l'adolescence, elle teste jusqu'où je peux boire de l'alcool en soirée. Et ensuite, conduire. Et on est à 5 dans la voiture, on ne met pas la ceinture de sécurité, et on voit jusqu'à combien on peut rouler. Et en fait, on teste ses limites. On teste aussi, alors on a testé la résistance de ses parents. Une fois que ça a tenu bon ou que ça a craqué, bah, il passe à autre chose. J'avais une collègue qui était pasteur à Vitrolles dans les années 90. Elle me disait que les parents avaient craqué, qu'il n'y avait plus que la police qui tenait bon. Et du coup, les jeunes de Vitrolles s'en prenaient aux policiers, au mobilier urbain, parce que là, au moins, il y avait du répondant, ils pouvaient se structurer. Parce que les autres avaient tourné, comme Ephraim avait virevolté, avait fait volte-face, n'avaient pas assumé leurs responsabilités. Voilà. Donc, l'expérience de la limite se fait de cette manière-là, et en fait, elle est constitutive d'une vie d'adulte. Et pour entrer en terre promise, il faudra en passer par cet apprentissage personnel, indispensable. Et je trouve que le terme choisi sur la question du désir est intéressant, parce qu'en fait, il s'agit justement de faire émerger le désir. La limite, c'est ce qui permet de faire le tri entre l'envie et le désir. Le désir est extrêmement positif, et c'est bon. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'à ce que dit Lacan, à savoir il faut jamais céder sur son désir. Bon, on peut le dire quand on est Jacques Lacan et qu'on peut tout se permettre, mais en tous les cas, le désir est quelque chose qui, dans le registre de la foi, est extrêmement positif. Et c'est l'émergence de ce qu'il y a à la fois de plus vrai, parce que ça correspond au sujet, de plus nécessaire, et c'est le moment où justement on a repéré ce qu'il y a d'ultime par rapport à ce qui est secondaire, accessoire. Et évidemment, la prière, c'est ce qui permet de faire ce travail de révélation du désir. Une fois de plus, c'est ce qui se passe entre Moïse et le buisson ardent. Moïse menait sa petite vie bien tranquille, il menait le troupeau de son beau-père, et puis il a été pris par cet absolu, par cet ultime, et le désir a pu émerger. Il savait pas qu'il avait l'âme d'un libérateur. Il ne savait même pas que les Hébreux étaient ses frères, puisqu'il avait été élevé en pensant qu'il était de la cour du Pharaon. Et en fait, le travail de révélation consiste à montrer quels sont ses véritables talents, ses véritables capacités, et donc voilà, ce dont il est en capacité de pouvoir se prévaloir. Donc, fournir de la viande, alors l'Éternel entendit et il fut irrité. Quelques chapitres plus tôt, au début de l'Exode, il avait entendu la plainte du peuple, et là il n'avait pas été irrité, il avait interpellé Moïse pour qu'il fasse quelque chose. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Jacob et Israël, c'est toujours la même personne, donc c'est juste pour dire que c'est tout le monde qui est concerné. Et là on se dit, dies irae, le jour de colère de Dieu va intervenir. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours, voilà ce qui est arrivé. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture.
Oui. On s'attendrait au déluge, en fait, c'est paradoxal. Oui. Quand on voit le crescendo, on s'attend au déluge, et après, c'est pas le déluge, il cède.
C'est le déluge de miséricorde. Voilà. C'est le déluge de bienveillance.
Voilà,
Dans la narration biblique, Dieu avait prévenu que plus jamais de déluge au sens de supprimer les hommes de la surface du sol. Donc là, il y a ce qu'on appelle la grâce surabondante. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et ça, c'est l'expérience parentale. C'est que plus les enfants sont pénibles, plus il faut les aimer. Non, mais il faut pas être bête et naïf. Enfin, je veux dire, une fois de plus, je parlais des limites. Mais c'est pas à coup de chat à neuf queues qu'on les rend plus humains. On peut les rendre plus psychotiques, certainement. Névrosés, j'en parle même pas. Mais certainement pas plus humains. Et donc, c'est là où il n'y a pas d'égalité. C'est que, et les enfants ne le comprennent pas au sein d'une fratrie, c'est que l'enfant qui est le plus en difficulté est celui qui doit être le plus aimé. Voilà. Et voilà. Bon, enfin, je ne fais pas un tableau, vous savez autant que moi. Je sais pas. Voilà. Mais ça marche aussi pour dans une communauté chrétienne, oui.
Les parents, ils finissent par céder. Est-ce que Dieu finit pas par céder à qu'on le sollicite ?
Dieu cède pas mal, en fait. Le peuple va demander un roi. Finalement, en dépit du fait que c'est pas une bonne chose, ils auront quand même leur roi. Et là encore, c'est la leçon qu'on a avec les adolescents. Il ne faut jamais rompre le contact. Il faut peut-être baisser un peu notre niveau d'exigence ou nos rêves personnels qu'on projette sur les enfants. Mais l'idée, c'est qu'il faut toujours être disponible dès qu'un petit bout de perche est tendu. Voilà. Et en fait, l'adulte, c'est le véritable adulte au sens d'Emmanuel Kant. Bon, je vais le dire avec la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, mais c'est grosso modo... C'est celui qui se soumet à l'autre pour le préserver qui est le véritable adulte. Hein, vous savez, il y a deux armées qui s'affrontent, puis il n'y a plus que deux généraux qui sont face à face. Ben, le vrai adulte, c'est celui qui baisse les armes pour éviter de tuer l'autre. Voilà. C'est le sens de la responsabilité. Et donc, bon, après, c'est l'art délicat hein, de quand est-ce qu'on cède, comment on cède, etc. Enfin, bon, ça, j'ai pas trop de leçons à donner non plus, mais... Enfin, sachez que c'est un sujet, quoi. Et c'est un sujet aussi sur le plan social, en fait. Vous voyez, on parle toujours la cistana, tout ça. Comment aider quelqu'un sans le maintenir en situation de dépendance ? C'est tout l'enjeu de l'entraide du service de diaconie, hein, de la liaison chaude par rapport à la liaison froide. La liaison froide, c'est quelqu'un a besoin de quelque chose, ben on lui donne tel quel. La liaison chaude, c'est on l'associe à ce qui va lui permettre de l'avoir. C'est Confucius hein, qui disait « Si quelqu'un a faim, ne donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Bon, » voilà, je n'ai pas trop inventé de choses. Mais c'est l'idée d'associer les personnes pour les rendre libres, qu'elles ne soient pas dépendantes de nous. Je le dis comme ça. J'espère que ça sera entendu, mais l'un des grands trucs quand même dans le monde caritatif, c'est le truc perverse, c'est que beaucoup d'associations n'ont plus comme objet d'aider les personnes, mais de maintenir les postes de salariés et d'entretenir l'institution. Non, mais applaudissez pas, c'est, en plus, rien à applaudir. C'est-à-dire que si on veut continuer à percevoir des subventions parce que c'est plus une enveloppe globale, eh bien, il faut justifier d'un nombre de personnes. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de cercle vicieux qui peut arriver ici ou là. Ça peut être arrangeant que les gens ne s'en sortent pas et qu'ils continuent à venir. Et voilà, bon. Enfin, nous, on l'a vu à la clairière. Il y a des moments où on se disait, mais en fait, là, on est juste en train de travailler pour maintenir notre rapport d'activité, quoi. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant. Voilà, je te parle de la carrière pour ne pas charger les autres. Ouais. Bon, après, il y a d'autres... Ah ouais. Alors, ils ne crurent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours, mais il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel, ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété, il fit souffler les cieux... Dans les cieux, le vent d'Orient, il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Donc là, on a tout. Hein. On a la manne, on a les cailles. Il les fit tomber au milieu du camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ce qu'ils avaient désiré et pas ce qu'ils avaient souhaité. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Alors, que fait-il ? On dit, il frappa de mort le plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes. En fait, le plus vigoureux... Oui, les plus vigoureux. En fait, en hébreu, c'est Mishman. Ça veut dire, en fait, le graisseux. Shouraki, traduit par les obèses. Autrement dit, ceux qui ont confondu le désir et le plaisir. Oui, c'est-à-dire que... Pourquoi dans les sept péchés capitaux, développés par des théologiens, y a-t-il... je ne me souviens plus d'ailleurs comment il s'appelle. Ce n'est pas la gourmandise, en fait, c'est la gloutonnerie.
Ah oui.
Gloutonnerie. Non, non, gourmandise, ce n'est pas du tout la bonne traduction. Gloutonnerie. La gloutonnerie, parce qu'en fait, c'est le sans fin. Vous voyez, c'est l'illimité. C'est en fait le comportement addictif. Et c'est le moment où on devient l'esclave de quelque chose. Par exemple, le chocolat, voilà. Et quand on n'est plus qu'un trou à remplir, eh bien, en fait, on n'est plus sujet. Et c'est vrai pour tous les autres comportements qui sont en fait réglés par la question du Shabbat. Hein, le Shabbat, comme je vous le disais, c'est l'hygiène spirituelle qui permet de vérifier qu'on peut vivre 24 heures sans quelque chose. C'est-à-dire que ça permet de tester nos lieux de dépendance. Oui, 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 en quelque sorte. Oui, il y a des moments où il y avait des excès. Oui, enfin...
Non, c'était un moment de... Il faut dire, carême, c'est d'autres moments de la disette, de la jonction, de la période de l'année où il n'y a rien à manger, de toute façon.
Oui, c'est ça.
Donc, de toute façon,
c'est plutôt pour donner...
entériner les téfateurs que les gens crevaient de faim.
C'était plutôt pour donner du sens au fait que là, il n'y avait pas grand-chose à manger.
Il n'y a rien à manger à ce moment-là. Hein. Pour Ramadan, non, mais le Ramadan, ça tourne.
Alors, le Ramadan, ça tourne sur toute l'année, donc c'est pas du tout le même cycle.
C'était le moment où vraiment, il n'y avait plus rien à manger.
Ouais. C'est ce qu'on appelle une étiologie factice. C'est-à-dire que ça permet de donner une explication à un lieu ou à un moment. En fait, s'il n'y a pas grand-chose à manger là, c'est parce que c'est le moment où il faut se préparer à la passion de Jésus. C'est complètement artificiel, mais au moins, ça remplit un vide. À défaut d'emplir l'estomac, on remplit de sens.
Voilà. Il y a aussi quelque chose, parce que quand on réfléchit, les gens qui ont, dans un espace de gloutonnerie... Quand on emploie le terme de vide, c'est juste. Parce que souvent, c'est pour compenser quelque chose qui n'est pas là.
Ah oui.
Donc c'est déjà pour remplir un vide. Les gens se sentent en vide. Ils ont besoin de remplir ce vide par quelque chose qui est doux. Parce que, en général, c'est des saveurs douces, sucrées, qui, au contraire, rassurent, font du bien.
Oui.
Donc c'est pour vraiment compenser un manque de quelque chose.
On pourrait en dire autant de la cigarette. Hein,
voilà.
Si on veut arrêter de fumer, bah, il faut... Enfin, il y a d'autres choses à régler, quoi. Ouais. Bien. Donc, il frappa les obèses, pour reprendre la traduction de Chouraki, les graisseux. Dans les autres occurrences, c'est la graisse. Hein. Et c'est vigoureux parce que des fois, on ne s'autorise pas dans les traductions. Il consomma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Alors là, il y a un jeu de mots, mais en hébreu seulement. Vanité, c'est le mot « evel ». C'est ce qui donne Abel, c'est la buée. Hein, la vanité, c'est pas ce qui est dénué de sens, c'est ce qui est fragile, précaire, comme la buée, un souffle. Abel disparaît comme ça parce que son frère est en colère. Et leurs années, par une fin soudaine, en fait, c'est Beella. Et donc, vous voyez, Abel, Beella, il y a un jeu de mots. Et Beella, c'est la terreur soudaine. Donc ça, vous l'appréciez en hébreu et beaucoup moins en français. Après, vous pouvez chercher une traduction qui rend compte de ce jeu de mots. Ah oui, c'est difficile. Ah, c'est un métier, hein. Bon, quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait se tourner vers Dieu. Mais ça, c'est, je l'ai entendu, c'est qui m'en parlait, c'était... il y avait un sketch de SketchUp là-dessus. C'était sur le pardon. Et c'était le père qui disait à son enfant, « Allez, viens chercher ta claque, viens chercher ta claque. » Et en fait, c'était cette idée... Alors, vous allez voir. C'est cette idée que les enfants ne rompent pas nécessairement avec le parent un peu dur. Alors, ça ne va pas vous plaire l'histoire que je vais vous raconter, mais c'est pas grave, c'est une histoire vraie, qui m'a été racontée par un pédopsychiatre de la paroisse, qui s'occupe des enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et donc, l'enfant est placé parce qu'il est battu par son père. Il y a père et mère, et son père le frappe, et donc il est placé, procédure classique, etc. Il discute avec l'enfant, et l'enfant lui dit que c'est la mère qui est violente avec lui. Alors, il réfléchit, il l'interroge, il dit, ben oui, oui, parce que mon père, il me frappe, mais il me prévient qu'il va me frapper. Et s'il me frappe, je le savais, parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors que ma mère, eh ben, en fait, elle ne fait jamais ce qu'elle dit qu'elle va faire. Et en fait, la vraie violence ressentie, alors, c'est pas pour justifier qu'il faut frapper, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Mais au niveau du ressenti, c'était l'attitude, peut-être un peu paradoxale, vous voyez, imprévisible, etc., de la mère qui était problématique pour l'enfant, et pas le père qui finalement faisait ce qu'il avait annoncé. Et du coup, là, peut-être qu'on a un écho à cela. Quand il les frappait de mort, il le cherchait, c'est-à-dire qu'au fond, il y avait quand même du contact. Il y a une cohérence, c'est quelque chose.
Il y a une preuve, en fait, de son existence.
Oui, il y a aussi ça, oui. Bon. Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, donc on revient sur le thème du rocher, que Dieu très haut était leur libérateur, tout ça. Bien. Alors, le trompait de la bouche, il le mentait de la langue. Donc on a toutes les facettes possibles, hein, là encore de l'enfance, voire de l'adolescence. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, donc c'est comme le verset 8, une race dont le cœur n'était pas ferme. Vous voyez, il y a un jeu d'inclusion assez fréquent. Il n'était pas fidèle à son alliance, et là c'est pareil que le verset 8 aussi, hein, fidèle au sens de Amen, donc on a une reprise. On a comme ça des reprises, hein. C'est un thème qui avance comme les tire-bouchons, ça tourne et ça avance quand même. Toutefois, dans sa miséricorde, donc c'est le terme rahum, qui vient de rehem, les entrailles, la matrice, les tripes, l'utérus, vous voyez, c'est la dimension amour maternel. Toutefois, dans la miséricorde, il pardonne l'iniquité, alors en fait, c'est il couvre l'iniquité, c'est comme s'il mettait le couvercle sur les fautes. C'est avec le verbe kafar qui donne le caporet, c'est le couvercle qu'on mettait sur l'arche d'alliance. Autrement dit, il fait en sorte que ce ne soit pas une marmite de laquelle tout sorte. Il pardonne l'iniquité, ne détruit pas. Le terme, en fait, c'est charat, qui veut dire ruiner. Il ne ruine pas. Il ne fait pas table rase, donc il n'y a plus de déluge. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Ça, c'est de la bonne pédagogie pour les parents. Voilà. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Donc, « alar » pour « aller ». Et « revenir », c'est le verbe « shuv » qui donne la teshuva, la conversion, le demi-tour. Donc, un souffle qui s'en va, qui ne revient pas. On est vraiment dans la philosophie de Coëlette, là, c'est-à-dire que l'existence est tellement fragile, d'où vanité des vanités, toutes les vanités, en fait, c'est, là aussi, c'est le terme Evel, on pourrait dire, tout est tellement fragile, tout est tellement précaire, qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce qui peut être vécu le jour même. Et quand Coëlette va dire « buvons et mangeons car demain nous mourrons », ce n'est pas cynique, c'est qu'il convient de prendre au sérieux le temps présent. Save the day, carpe diem. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tester Dieu, ou de tenter, et de provoquer le Saint d'Israël. Et alors, ça c'est quand même assez intéressant. Peut-être qu'il y a là, mais bon, Ouais, faudrait, ça serait mieux si j'en parlais avec un imam. Je pense qu'il y a là peut-être une distinction justement entre théologie judéo-chrétienne et théologie musulmane sur la question de l'alliance, parce que est intégrée ici la question du pardon. Et l'alliance, telle qu'on la voit dans le texte biblique, c'est une succession d'infidélité du peuple et de réconciliation créée par Dieu. Hein. Et en permanence, finalement, on a Dieu qui rattrape les erreurs du peuple. Et pour en avoir discuté des fois dans des groupes interreligieux, ça c'est une dimension, je dirais, qui n'est pas acceptable, en tous les cas qui n'est pas conçue de cet angle-là dans l'islam, qui considère que la justice doit toujours l'emporter sur la miséricorde ou la question du pardon. Je me souviens par exemple d'une discussion qu'on avait eue sur le récit de la femme adultère en Jean 8, où à l'attitude de Jésus, on avait l'impératif d'appliquer la sanction parce que c'était juste, et que seul Dieu peut pardonner, et que le pardon, c'est après la mort. Le pardon n'est pas ici-bas. Donc là, il y a un clivage qui peut peut-être s'opérer, et qu'on retrouve dans ce thème de l'alliance, qui n'est pas du tout compris de la même manière. Donc, il ne se souvint pas de sa puissance, en l'occurrence, et de sa main. Donc, vous voyez, on dit qu'il fallait se souvenir, qu'il faut faire mémoire, qu'il faut transmettre, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se souviennent pas. Alors ensuite, on a quelques plaies d'Égypte, dans les versets 43, 48, etc., 50. Donc, bon, vous retrouverez dans Exode 7, 8, 9, 10, les différentes plaies d'Égypte, qui ici sont un peu exagérées, parce que ça n'a pas tout détruit. Mais bon, là, ils disent que, grosso modo, les mouches venimeuses les ont dévorées. Bon, ce n'était pas tout à fait exact, mais bon. Vous voyez qu'on n'est pas dans un récit purement historique. Ensuite, le verset 50, qui est un peu scandaleux. « Que fait Dieu? Il donna libre cours à sa colère. » En fait, il aplanit le sentier. Le verset 50. « Il refusa, il ne retint pas leur âme de la mort. » C'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour leur éviter la mort. « Et il a remis leur vie à la peste. » Il livra leur vie à la mortalité, en fait, c'est « et leur vie à la peste, il remit. » Parce que si on ne fait rien pour empêcher, non seulement ça veut dire qu'on laisse faire, mais en fait ça veut dire qu'on fait. On est complice. Voilà. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Cham, c'est l'homme qui a plusieurs fils, dont Mitzraïm, Égypte. Donc Cham, ça veut dire l'Égypte. On trouve ça en Genèse, chapitre 10, verset 6, si vous voulez la référence. Donc on a là le récit de la dernière plaie d'Égypte quand les premiers-nés égyptiens vont mourir. Alors, peut-être que je finis là-dessus parce qu'après le reste est assez compréhensible. La dixième plaie d'Égypte est peut-être la plus incompréhensible. Est-ce qu'un dieu amour peut tuer les premiers-nés égyptiens? Alors en fait, peut-être que j'ai trop envie d'adoucir le texte à voir. Peut-être qu'on peut tout simplement faire une lecture littérale, mais... dans la perspective de l'Ancien Testament, tout premier-né doit être offert à Dieu, donc sacrifié, sauf le petit de l'homme et le petit de l'âne, l'âne étant la métaphore animale de l'homme, comme je vous l'ai dit quelquefois. Et donc, que signifie cette dernière plaie? Eh bien, peut-être signifie-t-elle que... dans les différentes tentatives auprès de Pharaon de laisser sortir le peuple d'Égypte, la dernière tentative, c'est de dire au Pharaon, tu peux encore te racheter finalement, et tu peux finalement offrir tes premiers-nés à Dieu, c'est-à-dire, mais les racheter, mais considérer que tu n'es pas auto-fondé. Pourquoi est-ce qu'on rachète les premiers-nés? Pourquoi le premier-né est-il offert à Dieu? C'est une façon de dire qu'on n'est pas notre origine. C'est-à-dire qu'on est au bénéfice d'autre chose que nous-mêmes. Dieu, ici, désigne l'altérité. désigne le fait qu'on n'est pas autofondé, qu'on n'est pas construit à la force du poignet, mais qu'on est au bénéfice des parents, des grands-parents, de toute une histoire, etc. Voilà, qu'on n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Et ça atteste cela, ce rite. Et donc, c'est peut-être une façon de dire à Pharaon, cesse de te prendre pour Dieu. Ce qui est tout le problème de la société égyptienne de l'époque. Hein, Pharaon est considéré comme Dieu. Et donc, si le premier-né est racheté, dans ce cas, ça permet de prendre conscience de notre humanité, de la fragilité. Et parce qu'on est conscient de la fragilité, on est peut-être un peu plus sympa avec les autres. Quand on est comme ça dans le registre de la superbe, il y a une forme d'intolérance vis-à-vis de la fragilité, de la faiblesse, de ceux qui ont moins bien réussi, etc. Et Pharaon ne cesse de s'endurcir, ne cesse d'avoir le cœur de plus en plus dur. Et en fait, il refuse cela. Et du coup, les premiers-nés, au lieu d'être rachetés, sont tués. C'est-à-dire que c'est une sorte de double contrainte. En refusant de reconnaître cette altérité, eh bien, il étouffe, il tue, en fait, la possibilité d'une nouvelle génération. Il est simplement dans un clonage et pas dans la création de nouveaux sujets. Bon, voilà, c'est une hypothèse pour ne pas voir simplement dans cette dernière plaie le résultat d'une action purement sadique de Dieu qui prendrait un malin plaisir à tuer les nouveau-nés égyptiens. Qui, je trouve, colle assez mal avec l'image d'un dieu amour. Voilà. Et donc, ça finit avec Judas et avec David qui va prendre la place de... en fait, David va remplacer Saül, par exemple. Hein, on change de tribu. Et David va être considéré comme la figure exemplaire, la perfection du cœur, Tam... ça veut dire complètement, voilà. C'est un cœur complet, et à la fin, on parle des mains intelligentes, en fait, c'est les paumes intelligentes. Donc, c'est à la fois un cœur parfait, donc c'est l'idée, et puis en même temps, les paumes intelligentes, donc c'est l'action, donc c'est un être accompli. Pas simplement un bel esprit, mais aussi quelqu'un qui est capable d'agir, capable d'incarner. Il est Christ, en fait. Hein, le Messie, c'est celui qui incarne la volonté de Dieu, qui lui donne de la chair. Et on est donc là avec le sommet de l'histoire. Le sommet de l'histoire, c'est David, capable de diriger, le bon berger, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans une prédication qu'on va dire de Jésus, c'était à l'Ascension, hein, que Jésus, en fait, est supérieur à David qui était déjà au sommet. Voilà. Donc c'est le sommet des sommets, Jésus. Il faut se débrouiller avec ça, quoi. Mais c'est cette idée que David, le David biblique, est le point de référence, ce qu'il faut viser pour découvrir ce qu'est l'humanité véritable. Et en fait, avec Jésus, on va atteindre un niveau supérieur où Pilate dira, comme je le rappelais jeudi de l'Ascension, « Ecce homo, voici l'homme véritable, voici l'homme accompli, voici l'homme comme on ne peut pas l'imaginer plus, voici la perfection à l'humain, et non pas au masculin, coquine. » Voilà.